Les corsaires. Ouais. Puis c'est drôle parce que ça, c'est du hockey scolaire. Fait que c'est toute la Rive-Sud qui, pour ceux qui veulent aller à l'école à Pointe-Lévis pour faire du hockey scolaire, c'est ça. Puis après ça, quand ils s'en vont jouer junior, ils s'en vont jouer junior 2A, et mais ils jouent contre ses chums. Parce que c'est le gars qui est de Saint-Romuald, il joue avec l'expert.
Puis
le gars qui
est équipe pas trop gars, loin. Là.
Ouais, c'est ça.
Le gars qui est de Saint-Étienne, il joue avec avec la Binière.
Puis ils savent tout qui a une sœur qui fait ci. Puis tu sais, ils sont capables de s'écœurer après.
Oui,
là.
Oui, oui, ils ont le temps de s'écœurer en masse. Mais ils se voient encore. Hein. Moi, Nathan, là, c'est quatre chums les plus proches. C'était les cinq gars de l'équipe de hockey. Ben, ils ont joué ensemble avant juvénile. Ils ont joué cadet. Pis,
ouais.
Et ils sont encore ensemble très
tant mieux. C'est une belle école de vie, le hockey.
Pour placer le calibre, là, juvénile D1, c'est clairement ce qui se rapproche le plus de l'ancien midget 2A dans le temps que le midget 2A était le fun.
C'est du vrai midget 2A.
Ça, c'était le fun de ta barouette.
Ça fait le tour, Dan?
Ben oui, je pourrais t'en parler plus tard du dernier match des Coyotes en Arizona.
OK.
C'est 650 $ debout puis 925 assis. Les gens qui veulent assister au match de ce soir.
OK, là, c'est la folie.
Il y a 5000 places dans l'arena.
OK, puis là, c'est fini, l'Arizona.
Tout le monde va assister au dernier match dans le Mullet Arena.
OK. Hey, Nico, d'ailleurs, parlant de ça, t'as publié quelque chose, puis j'ai pas trop compris. C'était quoi? Parce que là, on peut te suivre sur Instagram.
T'as toujours pu me suivre sur Instagram. C'est juste que tu ne savais pas.
Ouais, mais t'avais juste un nom pour te cacher, là, parce que t'avais des choses à cacher. Mais t'as publié quelque chose sur les Nordiques, sur la Ligue nationale. Oui. C'est quoi exactement?
C'est The Beaverton. C'est un journal satirique.
OK. Comme ça fait rire, mettons.
Oui, exactement.
Okay.
Donc, il publie des nouvelles humoristiques.
Si au Canada ou aux États-Unis?
C'est canadien.
OK.
Ouais. Puis là, la manchette, c'était la LNH va mettre des expansions partout, sauf à Québec. C'est dans toutes les villes nord-américaines, sauf à Québec.
Il va y avoir une expansion de la Ligue nationale partout, sauf à Québec. Wow.
C'était une photo de Batman, évidemment.
Hey, très drôle.
Hey, Batman, Nico parle de Batman. Je sais pas si vous avez vu, puis probablement qu'il va y avoir des rediffusions. L'émission de Piqué Subban, là, qui est présentée à l'occasion à RDS, là. Piqué, il y a comme une émission où il se promène puis il parle avec des vedettes maintenant, là. C'est très bien son émission. À chaque fois que, là, je regarde pas c'est quand que ça passe, mais quand je tombe là-dessus, je le regarde jusqu'à la fin.
C'est ça que je l'ai vu avec quelqu'un avec la Coupe Stanley, là. Il regardait des noms à la Coupe Stanley. C'était-tu dans un...
Peut-être. Okay.
Mais quand tu dis que des vedettes,
c'est tellement bon.
Des vedettes de hockey ou des vedettes de tout ça?
Oui, oui, mais il produit l'émission.
Okay.
Il l'anime. Okay. Piqué, tu comprends qu'il n'y a pas trop de misère à parler. Là. Il était avec Batman dans l'émission de cette semaine. Là.
Okay.
Ils s'en vont des bureaux à New York puis ils se font faire un chandail au NHL Superstore. Là. Tu sais, la boutique.
Oui, oui, oui. En bas, là, ouais.
La LNH, là.
C'est pas la 5e avenue, c'est un coin de rue avant, là, ouais.
Puis ils sont là. Puis je te dis, c'est du bonbon.
Ah ouais.
Piqué est vraiment bon.
OK. Ouais. Ben, je vais essayer de voir ça aussi. Ouais. Tu m'apprends plein d'affaires. J'ai trop d'affaires à regarder pour le moment. À 7h02 minutes, on aura la visite de Nathalie Normandeau dans quelques minutes. Et on va parler d'actualité et de ce tragique incendie également qui est survenu à Saint-Georges-de-Beauce la nuit dernière, où il y a toujours une personne qui manque à l'appel. On pense que c'est un enfant, puis s'il y a une personne qui manque à l'appel, comprenez que c'est un décès, là, parce que il y a qu'un tas de ruines qui jonche le sol.
C'est pas de bonne fontaine proche. T'es à 2 km la source d'eau la plus proche. Fait que faisait des allers-retours. Puis le feu est toujours pas complètement éteint, nous a-t-on dit.
Ben là, je vois les images en direct. Là, et puis le feu est fini. Il n'y a plus rien. C'est qu'un tas de bois.
Il y a une braise en dessous. La SQ vient de nous dire qu'ils pouvaient pas rentrer encore pour commencer l'enquête. Là.
OK. Mais pourtant, attends, ils peuvent pas rentrer dans rien. Il n'y a plus de maison.
Ouais.
Vois-tu les images RDI?
Oui.
OK. Il n'y a plus de maison.
Ouais.
Fait que, on va vous revenir avec les détails un peu plus tard. Alors, on est de retour dans Dupont le matin et c'est notre belle visite de Mme Normandeau, Nathalie, de son prénom, qui est en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous semblez rayonnante, madame, ce matin.
Oui.
Que se passe-t-il?
Ben, écoute, mieux que la dernière fois.
Je sais pas.
Mais là, moi, j'avais tombé la dernière fois.
Oui, oui, c'est vrai.
Hey, croyez-le ou non, il y a encore un peu de douleur.
Oui, hein?
Oui, c'est fou, hein? Écoute, quand tu te fais un bleu.
On vieillit.
Mais Dan, il connaît pas l'histoire. Parce que j'ai tombé juste en entrant dans l'immeuble, tu comprends?
Dans la station ici, là, vous regarderez, dans l'entrée.
J'ai fait
Il y a un dénivelé, puis il y a toujours une flaque d'eau.
Ouais,
surtout. Ça gère.
Personne n'est venu l'aider pendant 3 minutes.
J'ai fait un test, tu sais, je me suis dit, mais j'ai pas fait exprès, on s'entend, mais c'est. Il y a le gars qui passait, qui nettoyait le trottoir. J'ai dit, vous me passez sur le corps.
Il y a personne qui t'a aidé.
Mais il a juste dit, ça va, madame? Tu sais, j'ai dit, oui, ça va. Mais les voitures passaient. Il n'y en avait pas des tonnes à cette heure-là. Mais quand même, tu sais. J'étais à terre, là. J'étais de même, tu sais.
Et pourtant, enfin, toi, t'es serviable pour les autres. Je suis gentil.
Non,
mais c'est vrai.
C'est un phénomène quand même de société. On en a parlé la dernière fois. Mm-hmm. Si je disais le jeu triomphe.
Ouais.
Et là, tu dis, ben là, écoute, il y a une dame à terre, un monsieur qui a besoin d'aide, je sais pas, là, tu sais, écoute.
Faites quelque chose, là.
Faites quelque chose.
Elle est tellement serviable que j'y ai sous-traité une critique de film.
C'est vrai, mais ben avant oui. d'aller là, par contre...
As-tu l'as vu?
Non.
Ah!
C'est ça.
Tu devais y aller,
je
mais...
Je devais y aller, fait. J'ai manqué la projection de 16 heures, parce que moi, j'y vais en anglais, puis
ah.
je vais faire plus que mon âge, mais moi qui ai déjà allé voir des films à 11h30, minuit le soir, je suis plus capable à 9h45.
Ben, je comprends.
Tu vas dormir, c'est
je
ça.
Je comprends. Moi, mais... je suis allé, il était 1h10.
Ah, ça,
au
c'est
Clap Loretteville.
OK. Et donc, le film s'appelle Guerre civile.
Mais oui.
On en a parlé vite quand Nico nous a présenté le film.
Oui.
Puis moi, j'ai vu la bande-annonce.
Oui.
J'ai pas vu le film. Puis je me disais... Est-ce que ça pourrait être un élément déclencheur? Puis là, avec tu sais l'Iran qui attaque, tu sais, je comprends Israël, que c'est loin, mais on parle peut-être de Troisième Guerre mondiale. Ça peut effrayer des gens qui, des fois, sont un peu instables mentalement. Tu sais, il y a toutes sortes de problèmes. On le voit. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut être un déclencheur d'instabilité dans la société du coup?
Ben moi, je pense que c'est davantage Trump qui pourrait être un déclencheur d'instabilité sur le plan politique. Et je crois que la plus grande menace qui plane aux États-Unis, c'est pas une menace extérieure, c'est une menace intérieure. Et ce film-là a une très bonne critique, et c'est la semaine passée, on en parlait avec Paul Arcand, Luc Ferrandez, puis je dis, tiens, je vais aller le voir en fin de semaine. On s'entend, là, c'est pas Jojo comme film, là. Tu sais, c'est pas Fifty Shades of Grey, là. Okay. C'est pas du
tout. Ça s'appelle quand même Guerre civile.
Oui, ça s'appelle Guerre civile. En fait, l'histoire est construite autour de photographes. D'une méga photographe, une vedette qui est avec son chauffeur. Il se déplace avec un vieux journaliste du New York Times, avec une toute jeune femme de 23 ans qui, elle, aspire à devenir une star du monde de la photographie, du monde de la photo. Et là, ben, il se déplace aux États-Unis, puis là, il se dirige vers Washington, D.C., c'est leur histoire. Mais c'est hallucinant, là. Écoute, moi, je suis sortie de là, je vous le dis, j'étais un peu pas mal beaucoup traumatisée. Ça m'a trotté dans la tête plusieurs jours et je me suis dit jusqu'à quel point la fiction peut rattraper la réalité.
Bon, donc j'ai un peu raison. Là, on n'est pas dans une guerre mondiale, mais on est dans une guerre interne aux États-Unis
oui.
qui serait déclenchée par la mauvaise gestion.
C'est des milices privées qui se livrent une guerre sur l'ensemble du territoire américain. Et là, il y a des scènes qui sont très traumatisantes puis que je ne vous décrirai pas. Et ça démontre à quel point jusqu'où ça peut aller. Et il y a des milices, on pense bien à des milices d'extrême droite là, qui ont une conception de ce qu'est un Américain qui est très 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 à droite. Et donc le pays est à feu et à sang. Et à Washington, on a un président qui lui fait le contraire de rassembler le pays. Puis je vous raconte pas le punch à la fin non
je
plus.
Je comprends. Est-ce que, mais tiens, en même temps, quand tu dis qu'on... Oui, vas-y.
Mais ce que je peux dire, c'est que moi, j'étais en onde lorsqu'il y a eu l'assaut du Capitole. Je remplaçais Bernard Drainville.
OK.
J'étais dans le studio à Montréal. Je vais toujours me souvenir de ça toute ma vie. Et là, à la télé, écoute, les événements éclatent. Et là, j'ai dit en onde spontanément, on dirait qu'on assiste à un coup d'État par militants interposés.
C'était un peu ça.
Effectivement, t'as raison, Nico. C'était un peu ça. Mais jamais on n'aurait cru possible... dans l'histoire contemporaine, qu'une chose comme celle-là puisse se produire aux États-Unis, la plus grande puissance militaire, économique et démocratie du monde. Pourtant, c'est arrivé. Et
donc, le film, lui, c'est juste une étape plus loin. Si on essaye de le voir dans les réalités, ce qu'on va voir dans le film, c'est un peu plus loin, mais on a vu une initiation de ça avec l'assaut du Capitole. C'est un peu ça que tu dis.
Exactement. En fait, mais tu sais, les États-Unis sont nés d'une guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Fait que c'est un peu, le film, c'est un peu ça. C'est l'histoire qui se répète, mais à une échelle, écoute, à l'échelle du pays.
Dans les bandes annonces, ça semblait très plausible, ce qu'on voit comme situation.
Oui, c'est très bien fait.
Je disais, quand la bande annonce est sortie, je disais, on a une bande annonce pour 2025. Pour l'année 2021.
Oui,
à venir.
Ce que j'ai lu, Nathalie, parce qu'encore une fois, tu l'as vu, je l'ai pas vu. Ce que j'ai lu, c'est que il y avait pas de méchants. Qu'on était très, très objectif dans le... On n'assigne pas comprends. De blâme.
Non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Sauf que c'est sûr que il y en a des méchants. Là.
Ça reste une guerre.
Il y a une scène, entre autres, que je voudrais qu'il n'y ait pas, là, mais... qui est assez traumatisante. Et là, t'as un gars d'une milice qui a les photographes devant lui. Puis là, il dit, là, tu viens de où, toi? Tu viens du Colorado. Ça va. tu viens d'où, toi, de la Floride? Ah, t'es au centre. Tu viens d'où, toi? Tu sais? Alors, puis là, un des gars qui disait à un moment donné, je viens de Hong Kong, ça passe pas. Parce que c'est pas un vrai Américain. Okay. Puis je vous raconte pas ce qui arrive après. Mais en fait, c'est ce que ça démontre, c'est un pays qui n'a plus d'institutions assez solides pour maintenir la cohésion de la société.
Bon, si on se rapproche de la réalité.
Non, mais ça, c'est oui. important, Stéphane, parce que lorsque les institutions s'effondrent, ça fait quoi? Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. Fait que, tu sais, c'est l'anarchie. C'est carrément ça dans le film, c'est l'anarchie.
Bon, est-ce que on présente vraiment ce qui pourrait arriver avec l'élection de Trump? Est-ce que c'est ça qu'on veut démontrer?
Ben, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris.
Okay.
Le danger qui vient avec, qui pourrait accompagner l'élection d'un président qui, faut le dire, là, quand même, est accusé au criminel. Et puis lui, là, il a pas appelé ses troupes à quitter le Capitole. Au contraire, là, il a mis de l'huile sur le feu. Alors, ça, c'est un président qui est censé respecter et la Constitution. C'est ça, le premier objectif, là, d'un président, là, américain. Lui, c'est le chien de garde de la Constitution américaine. Et la Constitution, c'est quoi? C'est plus qu'un texte législatif. C'est un texte qui a cimenté la société américaine et qui fait que les États-Unis sont ce qu'ils sont devenus.
Mais Trump, lui. C'est sa Constitution à lui, plus que la
société. C'est ses règles à lui, tu comprends? Et d'ailleurs, si vous avez le goût d'approfondir sur le sujet, allez lire, tapez projet 2025, Fondation Héritage. Ça, c'est une fondation qui a été créée il y a plusieurs années aux États-Unis, qui fait la promotion de l'idéologie conservatrice de droite américaine. Donc, l'idéologie conservatrice religieuse de droite américaine. Et ils ont comme projet, en 2025, de faire un grand ménage dans la fonction publique américaine. Ils veulent congédier entre 20 000 et 50 000 fonctionnaires qu'ils accusent d'être à la solde des démocrates. Donc, ils disent, parce que l'administration publique américaine, comme toutes les administrations publiques modernes, est une administration publique indépendante du pouvoir politique. Puis, tu as besoin de ça dans toute société moderne.
Pour que ça continue de
rouler. Oui, puis ça assure de la stabilité, tu comprends, dans la gestion des affaires de l'État. Alors, ce qu'ils disent, c'est que nous, on va faire un grand ménage parce que tous ces fonctionnaires, les directeurs, par exemple, au FBI et à la CIA, ils les nomment pas comme tels, mais ils disent on va s'en prendre aux organisations à trois lettres. Alors, on pense effectivement au FBI puis à la CIA. Là, je suis un peu lourd ce matin.
Non, mais ça m'intéresse. Nathalie, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là.
Oui.
Et là, on n'est plus dans le film. Là, on est dans une...
Dans la réalité,
une fondation qui existe.
Oui,
il y a des vrais noms, il y a du vrai monde dans ça, là.
Vous irez taper fondation, c'est-à-dire projet 2025, fondation héritage, fondation héritage, et ça donne froid dans le dos.
Mais qui peut avoir ce pouvoir-là de congédier ces gens-là, par exemple?
Ben, Trump, par exemple, tu sais, si, parce que Trump, il s'en est pris là au grand patron du FBI quand il est arrivé. Puis là, écoutez son discours. C'est toujours un discours de victime. Tu sais, je suis victime d'une chasse aux sorcières.
Je suis maltraité.
Le système de justice est contre moi. Tu comprends? C'est tout ça.
Il a dit qu'aucun président dans l'histoire a été plus maltraité que lui.
OK, il se voit vraiment...
Mais l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui le croient en plus. Là.
Oui, Chris Lincoln a été assassiné.
Ben, c'est ça j'allais pour dire.
Ouais.
JFK aussi a été assassiné, effectivement.
Mais lui, il se voit encore plus maltraité que les autres.
C'est ça, exactement.
C'est un martyr.
Mais moi, ce qui me fait un peu... Tu sais, je ne suis pas d'un naturel... Je suis pas négative dans la vie, puis je suis pas une naturelle anxieuse dans la vie, moi. Mais je suis quand même préoccupée parce que c'est au sud de, tu sais, c'est chez nous, hein. On va, tu sais, Dan, on va aux États-Unis, on va en Floride, on va voir des matchs de baseball. On aime ça, là, aux États-Unis, mais nos amis Jérôme, Sylvain, Philippe sont allés, là, pas longtemps voir un match. Tu sais, je veux pas sombrer, là, dans le, tu sais, faire plus gros que nature, mais je trouve ça préoccupant.
C'est ça. Puis tu y réfléchis.
Puis là, on a Poiliev, là, tu sais, qui s'inspire. Moi, je l'appelle notre mini-Trump canadien. Puis je sais que ça va choquer peut-être certains auditeurs ce matin. Mais moi, ça me désole qu'un chef de parti fasse de la politique à l'américaine, alors qu'actuellement, les signaux qu'on reçoit de Trump, c'est pas des signaux extrêmement, vraiment pas rassurants pour notre démocratie et la stabilité de notre
système. Donc, ça te préoccupe plus ce qui peut arriver aux États-Unis dans le réel que, par exemple, justement, l'Israël qui est avec la Palestine, puis l'Iran qui s'en mêle, est-ce que pour l'équilibre canadien, ça peut être plus dangereux ce qui peut arriver aux États-Unis que la
Ben, c'est-à-dire que il faut regarder vraiment la prochaine élection présidentielle est d'une importance cruciale pour la suite des choses aux États-Unis, mais aussi pour notre propre stabilité à la fois politique et économique. Parce que les États-Unis sont notre plus grand partenaire d'affaires. Il y a 3 milliards de marchandises qui s'échangent à chaque jour entre les deux frontières. Et Trump, rappelez-vous ce qu'il a fait lorsqu'il est élu. Il a voulu mettre la hache dans l'accord de libre-échange qui nous lie avec le Mexique et les États-Unis. Alors, écoute, c'était la panique à Ottawa. Mais ce Mulroney, d'ailleurs, a été mis à contribution pour...
C'est calmer le jeu.
Ben oui, tout à fait, absolument. Il s'est même rendu à Mar-a-Lago, M. Mulroney, voir Trump, pour lui demander de...
Calmez-vous un petit peu. Prenez le temps.
On se demande, ben moi, je me demande, qu'est-ce qui nous donne le plus de chances d'une guerre civile aux États-Unis? L'élection de Trump ou l'élection de Biden?
Ouais, t'as raison, mais ce qui est embêtant dans le cas de Trump, c'est qu'il dit, si je ne suis pas élu, parce que lui, il menace tout le temps, si je ne suis pas élu...
Ça va être à feu et à sang.
Exact, tout à fait. Et s'il est élu, ben il va faire un grand ménage, c'est ce qu'on comprend, parce que là, il sait comment fonctionne l'appareil gouvernemental. Il était là 4 ans. Alors, ça aussi, c'est source d'instabilité. Mais en même temps,
c'est des deux côtés.
En même temps, je me dis, les Américains sont intelligents. Je me dis aussi, il y a toutes sortes de remparts qui existent dans le système politique américain, d'espèces de pare-feu pour éviter le chaos. Ben, exactement. Mais là, j'en ai parlé avec mon homme parce qu'il a vu le film, mais on n'a pas vu le film dans la même ville, dans la même salle de cinéma. Puis lui, son réflexe était de dire, ben voyons donc, c'est des campagnes de peur, tu sais. Parce que moi, j'étais honnêtement un peu sous le choc. Puis là, il m'a dit, ben là, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Et là, on dit, ben, prends ça, tu sais, avec un grain de sel. Je dis, ben, je sais pas, prends ça avec un grain de sel, je sais pas. Pour moi, il y a un élément d'insécurité qui vient avec le discours de Trump.
Pas si loin que ça. Moi, je l'ai pas vu encore une fois, mais dans le film Guerre civile, j'ai l'impression évidemment de façon différente, mais que c'est ce qui se passe en Haïti actuellement.
Des bandits ont pris
le contrôle des milices privées. Si t'as un gun, tu peux.
Exact.
T'es nommé ministre.
Ben, tu fais ta loi. Tu fais ta loi. Mais c'est un très bon exemple, Stéphane, très très bon exemple.
Faut pas penser que ça arrivera jamais. Tu sais, déjà que Trump se soit rendu à la présidence des États-Unis une fois, c'est complètement débile. Le 6 janvier.
Ouais, c'est débile aussi.
Oh, ouais. Jamais on aurait pensé ça.
Il y a eu mort d'homme.
C'est un coup d'État. C'est justement comme on en voit des pays comme Haïti.
C'est ça.
Rappelez-vous, lorsque Trump a été élu, moi, je me souviens, tous les commentateurs, ou à peu près, disaient, ben voyons, c'est impossible qu'il soit élu, ça n'arrivera jamais. On le ridiculisait. Hey, on a-tu eu un 2 minutes, hein, la soirée où on a appris qu'il était élu?
Hey, moi, je me souviens, ça se préparait, sa première élection, et c'était la campagne électorale, et je gardais des joueurs de hockey pendant le tournoi Pee-Wee de Québec. Je gardais 2 joueurs des Blues de Saint-Louis. Puis des gens avec qui je suis encore en contact, les parents, parce que les parents sont, on garde des joueurs, quand tu gardes des joueurs d'une équipe américaine, généralement tous les parents sont là.
Oui.
Ils sont au Château Frontenac, puis sur la journée longue, puis nous autres on garde les enfants, puis
non tu fais des crêpes le matin.
C'est ça, on peut porter à l'aréna, puis des fois les parents pensent le dire salut, mais fait que ils sont sur le party pendant 13 jours en tout cas. Et je me souviens très bien, le groupe de parents des Blues de Saint-Louis de cette année-là disait non, si Trump est élu là, on s'en vient tout à peintendre. Ils disaient tout qu'ils déménageaient ici. Il y a personne qui restait aux États-Unis s'il était élu. Il y a personne qui a déménagé, mais ils ne le croyaient pas. Mais des gens qui étaient quand même aisés, qui vivaient... Tu sais, parce qu'il y a ça, c'est le rural qui fait élire Trump. C'est
une distinction comme ça. Oui, les États, le Colorado. En fait, ça me passait dans la presse, il y avait un article fort intéressant. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a renié son père qui a créé une milice... Une milice d'extrême droite, et lui vient du c'est Yves Boisvert qui était là. Lui s'appelait Dakota, le jeune. C'était en Ohio, je crois. Alors, on est dans des États. Écoute, je pense que il y avait 0,5% de... Dans certains États, il n'y a presque pas de minorité. Tu sais, c'est 0,5% de Noirs, je pense. C'est-tu Ohio? Je crois que c'est ça. Il disait, t'as des états très très blancs encore, qui effectivement incarnent cette division là qu'on constate aux États-Unis
avec la religion.
Enfin, mais c'est fort intéressant. Mais tu vois là, on parle de ça ce matin.
Non, mais j'ai d'autres choses à
dire
parler
aux auditeurs que j'hésitais parce que à cette heure-ci, Stéphane, le monde se lève, ils prennent leur café. Mais semble que ça va être un peu lourd ce matin.
Non, je suis convaincu.
C'est comme si on avait une journée d'ouvrage faite déjà cette heure-ci.
Oui, c'est ça. Je voulais te dire d'autres choses. Je voulais prendre quelques minutes pour te dire merci. Puis j'en reviens pas encore du cadeau que tu m'as fait.
Ben ça me fait plaisir. Un cadeau d'anniversaire. Dimanche.
Oui.
T'as quel âge, là?
J'ai 56.
56, ah oui, c'est ça.
Hein? Il me reste 14
Pourquoi
ans.
Pourquoi tu dis ça avec un... Il me reste 14 ans. Mais tu dis ça dans la voix avec une espèce de quoi? T'es pas content de ton âge?
Pas ben, pas content, mais le 14 ans qui reste, ça va aller vite. Non, mais c'est pas drôle, Grim, on l'a dit hier.
Je le sais.
Tu sais, c'est qu'à 70... ça va être moins fringant, d'après moi.
Ça dépend. Ça dépend, Stéphane, parce que tu vois, on envisage la vieillesse avec une espèce de fatalité. Mais c'est démontré que le corps humain, il peut s'adapter à cette vieillesse qui pointe
devant nous. Oui, mais tu sais, là, je pars pour l'Espagne, je le ferai pas dans 14 ans, tu sais.
Mais qui te dit?
Ben,
mais tu perds du poids, tu te mets en forme, t'as fini la radio.
Tu te trouves en robot. La chronique est finie.
Non, mais tu comprends-tu? Il y en a des personnes âgées, là, ils sont incroyables. Ça court, ça fait du vélo, ils sont actifs. Et moi, je me dis, nous autres, on est là, là, tu sais, écoute.
On fait rien.
Ben, c'est ça. Puis c'est ça qu'on a un métier pas évident. On est toujours assis, ma foi, à la recherche, la radio, c'est pas évident. Mm-hmm. Mais c'est un âge critique, la cinquantaine, trouves-tu?
Ben,
moi, c'est
oui.
ma pire dizaine jusqu'à maintenant. Oui. C'est ma pire dizaine.
Oui, parce que j'ai des douleurs qui apparaissent, qui partent pas.
Tu vois?
Tu sais, mal à un genou, là, toi, c'était arrivé à cause d'une chute, mais moi, j'ai mal à un genou, ça s'en va pas.
Un ostéopathe?
Non.
As-tu de l'arthrose?
Ben, ma mère faisait de l'arthrite comme vous avez probablement jamais vu dans votre vie.
Vrai?
OK? Les orteils recroquevillés les unes sur les autres. Oh. Même chose pour les mains. Elle était opérée aux deux hanches, à un genou, refait en plastique au complet. Tu sais, c'était, mais elle avait surmonté ça, mais ça avait commencé très, très jeune. Fait qu'il est possible qu'on ait une forme de goutte, d'arthrite, d'arthrose. Là,
mais tu sais, ce qu'ils disent, c'est que quand tu fais de l'arthrose, là, si demain t'es os sur os, le cartilage, évidemment,
c'est usé.
Il faut que tu continues quand même de faire de l'exercice.
C'est ça.
Si on était vaillant, c'est vous ce qu'on ferait.
Continue de faire de l'exercice.
Non, mais
si on était vaillant, alors, lorsqu'on arrive ici, on a 4 étages à monter. Oui. Tous les matins, il faudrait monter 4 étages.
Ouais, on l'a fait hier.
On vient de mauvaise moi, là, je vois l'ascenseur qui marche pas. Alors, quand j'étais chez Boulevard, on était au 5e étage et je montais les escaliers tous les matins. Mais saviez-vous quoi? Ça fait une différence.
OK, mais pourquoi? Est-ce que parce que tu étais obligé de prendre l'escalier?
Non, parce que j'avais envie de le faire.
OK.
Puis je me regarde aujourd'hui, puis je me regarde à l'époque, puis je me dis, ben oui, c'est sûr qu'il y a une différence. Parce que après une semaine que tu es monté 5 étages, tu le vois pas. Mais quand ça fait 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, Christy, t'es moins soufflé quand tu montes. C'est pas compliqué. Ça prend pas plus de temps que prendre l'ascenseur.
Non, mais moi,
on est paresseux, Stéphane.
Je le sais, mais j'arrive en bas au premier à l'ascenseur, puis je t'ai soufflé. J'ai pas commencé à monter.
Mais tu vas toujours être essoufflé. L'avantage qu'on va avoir, c'est que tu vas être un peu moins soufflé après 3 semaines, 1 mois, quand tu vas arriver en haut. Je me trompe-tu, Dan?
Non, c'est tout à fait vrai.
Ouais, hein? Toi qui es le sportif de la gang, là.
On joue au golf en kart. On va se slacker le sport.
Par comparaison, oui. Dans la gang, c'est toi qui
joues au golf, au moins.
Non, mais je joue en kart, tu sais pourquoi? Parce que Steph, faut que je remonte en haut n'importe quand. Le téléphone peut sonner, puis il peut manquer de change au casse-croûte, tu comprends?
Okay.
Mais quand je joue dans d'autres terrains, j'essaie de jouer à pied. Puis je veux pas me défendre, là.
Non, c'est
que par ma job, il y a comme une situation d'urgence qui peut survenir.
Je suis allé jouer au Golfin vendredi passé, puis je me suis loué un kart.
Déjà, à l'intérieur.
C'est un simulateur, frappé sur un écran, puis je voulais un kart. Merci, Nathalie, d'être venue nous voir.
Grand plaisir.
C'est toujours un plaisir pour nous. Bonne journée à toi aussi. Nathalie Normando, l'effet Normando, au 93, dès 18h, ou sinon, en direct, sur l'application que j'ai tous les matins à compter de 10h. Bougez pas. En bas, on n'ira pas vite. C'est le segment où chaque membre de l'équipe choisit une nouvelle où on va en discuter en gang, à savoir nos opinions sur différents sujets de l'actualité. Mais toujours au départ, c'est Pierre Blais qui va nous livrer les 3-4 nouvelles importantes à cette heure-ci. Alors, Pierre, tu commences avec quoi?
Ben, l'incendie à Saint-Georges, je pense que c'est ce qui retient le plus l'attention ce matin. 5 personnes qui ont été blessées, mais surtout une qui manque à l'appel actuellement. Incendie, donc, qui est survenu hier soir dans une résidence privée à Saint-Georges sur la 90e rue. Maintenant, les dommages sont pas juste très importants. La bâtisse semble être une perte totale, selon les
invités. Ouais, il n'y a plus rien. J'ai vu encore des images il y a quelques minutes à peine. Il n'y a qu'un tas de bois qui semble recouvrir le solage de la résidence. Évidemment qu'on va devoir fouiller les décombres pour trouver le corps de la personne manquante, qui serait un bébé, en passant. Ouais. Ça, c'est mes informations à moi, là. Mais et vous savez qu'ils vont retrouver, hein, même si l'incendie a été
très intense.
Vous savez qu'un corps humain, c'est, tu sais, en crémation, pour brûler un corps humain, c'est, ça prend 1700 degrés, genre. Parce que, et ça prend un temps quand même assez surprenant. Donc, dans un incendie de maison, même un incendie où la maison brûle au complet. C'est-tu un ou une incendie?
Un incendie.
Quand ça brûle au complet, on retrouve toujours, c'est dégueulasse à dire comme ça, mais le corps humain, il va rester toujours un pain. Tu sais, donc vous comprenez le centre de... Fait qu'il retrouve toujours, s'il y a des personnes manquantes puis qui est à l'intérieur de la maison, ouais, ils auront toujours les preuves. Je me souviens d'une fois où on n'a jamais retrouvé de reste d'une personne qui devait être à l'intérieur. D'ailleurs, je me souviens que les années ont suivi, et puis là, au pire, on pourrait peut-être le savoir, et c'était à Saint-Georges, et c'était un dénommé Fortin, si je me souviens bien. Il y avait eu un incendie au centre-ville de Saint-Georges, puis c'était une maison où ça brassait quand même pas mal, là. La police connaissait bien les moineaux qui vivaient là, et il y avait eu un incendie, et quand on a fouillé les décombres, on n'a jamais retrouvé le corps de la personne manquante.
Alexandre Fortin, en 2012.
C'était en 2012.
Ah non, excuse-moi, là, c'est en 2002. 10 ans plus tard, on cherchait encore des infos en 2012.
Exact. Parce que les pompiers et la police disaient, c'est impossible qu'on n'ait pas retrouvé. Tu sais, parce que même je reviens à la crémation comme l'exemple, l'ossature va toujours rester. Tu sais, quand on dit qu'on a les cendres de quelqu'un, ça fait plusieurs fois que je le raconte, là, vous savez qu'on va brûler le corps humain, il va rester les ossements qui vont être extrêmement fragile comme de l'argile, et on va broyer les ossements, et c'est ce qui va créer ce qu'on appellera les cendres. Mais cette poudre-là. Mais donc, il y a toujours des traces. Et quand il y avait eu cet incendie-là à Saint-Georges, Alexandre Fortin, on disait de lui qu'il était dans la résidence en question, et on l'a jamais retrouvé. Et
il entretenait des relations douteuses avec le milieu des stupéfiants.
C'est ça.
Donc, ça a soulevé beaucoup de questionnements, oui.
Tu regardes, ça fait déjà de ça, quoi, 15 ans quasiment, là?
En 2002?
2002.
Ça fait 22 ans.
22 ans, c'est ça. Fait qu'ils ont pas de traces encore de l'individu. Fait que voilà, c'est triste, mais ouais, on verra là, quelles sont les causes de l'incendie, ouais, survenu à Saint-Georges la nuit dernière.
On reste en Beauce. 3 femmes accusées pour avoir séquestré et agressé un homme. Ça se serait passé du côté de Saint-Zacharie dimanche dernier. Et c'est 3 femmes dans la trentaine, originaires de la Beauce, les 3, qui ont été arrêtées. Kim Rancourt, Kim Deblois et Valérie Grenier. Toutes les 3 sont accusées de voies de fait graves contre leurs victimes. On dit qu'ils l'ont blessée, mutilée, défigurée. Elles font aussi face à des accusations de l'avoir séquestrée, emprisonnée ou saisie de force, la victime. Et aussi parce qu'elles ont volé son cellulaire et d'autres objets pour moins de 5 000 $. Et dans le cas de Kim Rancourt, il y a même une accusation de menace de mort ou de causer des lésions corporelles. Donc, un chef d'accusation supplémentaire dans son cas. Tout le monde reste détenu d'ici à la comparution de vendredi prochain. Pas le droit de communiquer entre elles, ni avec la victime, ni avec ses proches. Et on confirme que cet événement-là est lié au trafic de stupéfiants.
OK. Je pensais qu'ils avaient rendu cocu les 3 ensemble et qu'ils s'étaient vengés.
C'est beau, la drogue, hein?
C'est beau, là. C'est un beau monde.
Ça fait faire des belles affaires.
Honnêtement, 3 femmes dans la trentaine,
c'est rare.
C'est rare, là. C'est le profil des gens arrêtés ou accusés.
Pas obligé de prendre tous nos défauts, mesdames, là.
Non, c'est ça. Vous aviez de belles qualités. C'est raté dans votre cas.
Ouais. La bretelle d'accès pour le boulevard François de Laval, du boulevard François de Laval plutôt, ne sera pas fermée. Ça avait été évoqué pour corriger certains problèmes de sécurité sur l'autoroute du Frère-Montmorency, puis ce carrefour-là, là, cet endroit-là, mais notamment aussi ce qui est arrivé il y a maintenant plus d'un an et demi. C'est ça, un an et demi, hein, si je me trompe pas. Le Soleil nous rapporte que le ministère des Transports, de leur côté, ils voient pas d'une façon de régler les problèmes de sécurité routière dans ce secteur-là. En fait, plutôt que ça les déplacerait, puis ça en augmenterait dans les les quartiers, le quartier qui est tout de suite à côté de ça. On dit que le flux automobile là serait vraiment immense dans les rues voisines. La configuration ne prévoit pas pour n'est pas prévue pour absorber un tel débit de circulation. Donc voilà, il y aura pas de changement de configuration. Ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres changements dans le secteur avec le boulevard urbain et tout ça qui pourrait s'en venir, mais cette bretelle là ne sera pas fermée. Et je termine avec le budget au fédéral, rapidement, parce que je sais que ça soulève pas nécessairement beaucoup les passions, mais quand même, les dépenses à 480 milliards, les frais de la dette 54 milliards, ce qui nous amène à un budget de 534 milliards ou à peu près. C'est 8% d'augmentation par rapport au dernier budget. Et il y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Le déficit est de 40 milliards pour cette année. Ce sera 20 milliards en 2028-2029.
Wow! C'est
vraiment, ce qui est prévu pour
ça
l'instant.
Ça va bien, ça va vraiment bien. On y va déficitaire par-dessus déficitaire. Les jeunes, ils paieront ça plus tard. Hein? C'est ce qu'on, ça doit être ça qu'on se dit quand on n'arrive pas, puis on continue de dépenser. T'sais, c'est ça que le gouvernement fait. T'sais, il dit, ouais, mais est-ce que vous voulez qu'on coupe d'un service? Ben, moi, si j'ai pas d'argent à l'épicerie, là, t'annonces qu'ils me le donneront pas le bélonné. Hein? Fait que, il va falloir que je coupe quelque part.
Ce qu'ils vont souvent nous donner comme comparaison, comme point de comparaison, c'est le pourcentage du PIB par rapport à la dette, là, puis on dit que ça va continuer à diminuer. Donc, grosso modo, en proportion, on n'est pas plus dans le trouble qu'on l'était, mais tu sais, honnêtement, va mesurer ça au quotidien dans nos vies. C'est plus difficile un peu, là.
Oui, la dette, moi, personnelle, augmente, mais mon salaire augmente. Fait que c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave. Ça arrivera pas tantôt pareil. Là. Ah, que c'est ridicule, mais que voulez-vous? Merci. Pierre, maintenant, l'équipe, Karen, ta nouvelle?
C'est la surpopulation féline qui coûte de plus en plus cher. On parle de la fourrière de Québec. Là, en fait, les coûts ont augmenté de 45% en 2 ans. Et c'est vraiment propre à la surpopulation des chats. Parce que bon, il y a des chats qui vont à l'extérieur, il y a des chats qui ne sont pas stérilisés, qui s'accouplent ensemble. Et là, ben, ça fait des petits bébés chats. Mais à un moment donné, je disais, faut s'en occuper de ces animaux-là. Et, on ne peut pas les laisser en liberté dans la ville comme ça. Et ce qui arrive, c'est que pour répondre au contrat de la Ville de Québec, on a été obligé d'engager un vétérinaire de plus et des techniciens en santé animale, en santé animale pour répondre à ce contrat-là. Mais là, on arrive à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça n'arrive plus. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on adopte un animal, soit dans un refuge ou ailleurs, il doit absolument être stérilisé?
Je pensais que c'était déjà comme ça, honnêtement.
Ben ça ne semble pas. Du moins chez les chiens, lorsque tu vas adopter d'un éleveur qui est éthique, tu vas avoir un contrat qui va dire à partir de tel âge, tu dois stériliser ton chien afin d'avoir par exemple les certifications du club canin canadien, etc. Ou encore je veux une preuve de la stérilisation du.
Ouais, mais tu sais la vraie raison de ça? La vraie raison de ça, c'est qu'ils veulent garder le...
Oui, c'est pour pas faire de compétition aux éleveurs.
Exactement.
Mais au moins c'est fait.
Oui, oui, je comprends.
Moi, je pensais que pour les chats, on le faisait aussi. Dans les SPA et autres refuges, je pensais qu'on les stérilisait systématiquement.
OK. Mais on fait quoi avec tous ces chats-là? Là? On se le dit-tu, la vérité? Là? Ils doivent l'éliminer? À un moment donné, c'est des chats. Là.
Je n'ai pas l'information, Steph, de qu'est-ce qui se passe avec la surpopulation des chats. À partir de... On les garde combien de temps? Parce que il y a aussi le fait que si tu... Pour X raisons que ce soit, tu dois te départir de ton animal de compagnie. Ben, tu vas aller le porter où? À la SPA. Mmh. Là, il y a tout ça aussi. Est-ce que les gens ont fait le bon choix en adoptant un animal? Des fois, on y va sur un coup de tête. Hein? C'est très émotif.
C'est arrivé beaucoup dans la pandémie.
Ben, exactement. Donc, c'est vraiment depuis 2 ans là, que les coûts ont explosé. Donc, c'est ce qu'on voit. Est-ce qu'on devrait les micropucer aussi? Pour savoir est-ce que le chat appartient à quelqu'un. Parce que moi, si tu trouves mon chien, que tu l'amènes, par exemple, à la SPA ou chez le vétérinaire, là, ben ils vont passer une espèce de scan dessus, puis ils vont voir que le numéro est attribué à Karen Paquette à Québec. Là.
Okay. Donc,
comme ça, on va savoir
qu'il y a pas assez. Pourtant, tu m'as dit qu'il était brillant, ton chien. Il n'est pas capable de se retourner chez eux tout seul.
Ben ça pourrait arriver qu'il se sauve ou qu'il soit volé.
Au nombre de fois qu'on t'a fait des livres, toi, là. Ah.
On devrait peut-être te micro-pucer, Stéphane.
Oui, peut-être. Mais tu sais que je pense que les gens qui ont eu et qui ont des chats, ils en auront plus.
Pourquoi?
Moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça. Ben, avec les nouvelles règles. Tu sais,
le dégriffage, tu parles et tout ça. Là.
Un chat pas dégriffé peut pas vivre d'une maison. Là. Tu sais, un chien, ça peut, ça s'élève très bien, je trouve. Il y a moyen, quelqu'un qui va prendre les bons moyens et qui va suivre les bons conseils va être capable de bien élever un chien. Ça se contrôle un petit peu plus. Un chat, zéro, là. Un chat,
c'est un besoin, en fait, de faire ses griffes, de griffer quelque chose.
Ouais, mais quelque chose, c'est quoi? Vous avez beau acheter tous les gadgets qui se vendent, il va pogner le coin du divan à un moment donné. C'est pas assez brillant, tu sais. C'est pas, c'est un chat, autre de la radio, ça pourra pas faire grand chose, tu sais. C'est pas assez brillant. Fait que, c'est pour ça qu'il va se dégriffer sur le coin du divan ou ça va tout scraper dans la maison. Tu sais, honnêtement, pensez à ça. Moi, on a déjà eu des chats, mais plus jamais, là, tu sais, avec ces règles-là. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va amener beaucoup plus d'euthanasie. Fait que on veut pas les blesser en les dégriffant, mais on va les tuer. Fait que ça va être bien moins compliqué. Non, mais c'est ça qui va arriver. Là. Je vous le dis que les gens voudront plus avoir de chats. Vous aimeriez faire briser votre... Moi, je comprends pas ça. Non,
mes chats, ils sont pas dégriffés.
Puis ils brisent rien dans la maison?
Un peu.
Ouais, ben moi, c'est ça. Mais moi, là, un peu, j'accepterais pas
ça.
Non, mais c'est pour ça que t'as pas de chats. Mais c'est pour ça que t'as pas de chats.
Oui, oui, absolument. C'est ça. Donc, non, mais moi, j'ai de la misère à comprendre qu'on accepte qu'un animal brise nos choses. Tu sais, moi, là, quand je vois un chien manger des souliers, sérieux, il est fini, c'est fini. Là, il y a un bout que ça peut pas... Tu sais, il y a un bout que je suis pas prêt à faire. Peut-être que j'exagère.
Non, mais t'es juste pas fait pour avoir un animal. C'est correct, tu le sais.
Okay.
Tu le sais que si le chien, il mange tes souliers, toi, c'est fini.
Non, mais arrête de penser ça, de mettre ça sur moi. Explique-moi comment que t'acceptes qu'une paire de chaussures à 150$, elle soit brisée alors qu'elle a une semaine de vie parce que le chien avait le goût de la manger. Tu trouves ça cute, toi?
Non, je te dis pas que c'est normal puis je ne pardonne pas le chien. Moi, je me demande...
Moi, je mets le soulier qui reste puis je dis pas de la cul.
Mais si c'est pas ton soulier, t'es dans le
trou. Non, mais le point, c'est... Premièrement, je me pose la question, pourquoi mon chien mange des souliers? Okay, donc, est-ce qu'il n'y a pas assez d'autres jouets, il n'est pas assez stimulé? Il y a une raison pourquoi il mange des souliers, première affaire. Après ça, si je sais que mon chien mange des souliers, puis il y a cette propension-là, ben, je vais les enlever, les souliers, de la place. Ah, tu comprends?
S'il mange le divan, on va enlever le divan.